Alors bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion publique des candidats de lutte ouvrière que je vais vous présenter en vous demandant d'abord de bien veiller à éteindre vos portables pour la suite de la réunion. Alors comme vous le savez sans doute, Lutte ouvrière présente des candidats à ces élections législatives dans les 539 circonscriptions de métropole. Et également, nous avons 6 candidats à La Réunion, et 4 en Martinique et 4 en Guadeloupe. Titulaires et suppléants, ce sont des hommes et des femmes du monde du travail qui se présentent pour en défendre leurs intérêts. Alors à cette tribune, je vais vous présenter les 4 candidats présents, 4 candidats des circonscriptions rennaises, et puis je vous présenterai les autres après. Je pense que je pourrais faire ça. Alors tout d'abord, à ma gauche, toute gauche, Benoît Guillet, qui est éducateur spécialisé et qui est candidat dans la 3e circonscription. À ma droite, Fabrice Fuca, qui est technicien à l'usine PSA de la Jeannet et qui est candidat dans la 8e circonscription. Dans la 1ère circonscription et notre porte-parole régionale. Et moi-même, Florence de France, ingénieure et candidate dans la 2e circonscription. Et puis je vais vous présenter aussi les autres candidats des circonscriptions d'Ille-et-Vilaine qui sont présents dans cette salle. Donc pour la 4e circonscription, Sandra Chirazi, qui est statisticienne. Pour la 5e circonscription, Françoise Amar, qui est secrétaire. Pour la 6e circonscription, Régis Douard, qui est agent de l'Institut. Et enfin, pour la 7e circonscription que je n'avais pas encore citée, Édouard Descôtes, qui est enseignant. Il est dehors, Édouard. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Fabrice Lucas.
Nous savons tous que les grandes familles bourgeoises amassent des fortunes colossales. Ces fortunes se construisent sur l'exploitation des travailleurs et sont le résultat de la guerre sociale que mène le patronat. Alors s'il existe une entreprise emblématique de cette guerre sociale, c'est bien le groupe PSA dans lequel je travaille. Lorsque ses intérêts l'ont commandé, la famille Peugeot n'a pas hésité à supprimer des milliers d'emplois, notamment à l'usine de la Jeannet, où je travaille, et à prendre la décision extrême de démolir une de ses usines, celle d'Aulnay, quitte à mettre sur le carreau des milliers de travailleurs avec leurs familles. Alors en quelques mois, la décision prise dans le secret du conseil d'administration de PSA a bouleversé toute leur vie. La direction a justifié cette démolition par un mensonge. Le groupe était soi-disant au bord de la faillite. Alors ce mensonge patronal bien rodé a été relayé dans l'opinion par Montebourg, le ministre du redressement industriel de l'époque, par Hollande et par toute la presse. Ce risque de faillite était bien un mensonge car à peine 3 ans plus tard, le groupe explose les bénéfices qui se comptent en milliards et la direction annonce en grande pompe le rachat d'Opel, la branche européenne de l'américain General Motors, 10 usines en Europe, 38 000 travailleurs qui produisent 1 million de véhicules par an. En s'achetant Opel, la famille Peugeot ne va créer aucune richesse. Elle ne va pas construire une seule usine, créer un seul emploi. Au contraire, elle va en détruire. La réalité est qu'en s'achetant Opel, Peugeot s'achète le droit d'exploiter 38 000 nouveaux travailleurs dans le seul but d'augmenter ses profits et de s'enrichir un peu plus. C'est ça qu'ils appellent investir. Pour faire cette politique, la famille Peugeot n'a qu'à demander à son homme de main du moment, Carlos Tavares, le PDG du groupe, pour appliquer ce qu'il a déjà fait dans les usines PSA. Rentabiliser en supprimant des emplois, et là encore, s'il le faut, jusqu'à licencier, voire fermer les usines pour surcharger de travail celles qui restent. Il utilisera le piège de la division, avec la mise en concurrence des travailleurs en France contre ceux d'Allemagne, d'Espagne, de Pologne ou d'Angleterre. Mais il n'est pas joué d'avance que cette politique réussira. Les travailleurs de PSA et d'Opel ont désormais le même patron, le même actionnaire, le même ennemi. La seule perspective qui vaille le coup d'être défendue face aux attaques de la direction PSA passera par la conscience que par-delà les frontières, les travailleurs ont les mêmes intérêts à défendre et qu'ils ne pourront les défendre que collectivement par leur mobilisation. Alors, quand on entend les spécialistes en économie s'émerveiller devant le fantastique redressement de PSA sous la main de Carlos Tavares, c'est ridicule. Et surtout, ils ne disent jamais à qui cela profite. Aux travailleurs de PSA, sûrement pas. En quelques années, nous sommes 20 000 de moins pour sortir une production en augmentation tout en étant moins payés. Par contre, les actionnaires et les principaux dirigeants du groupe, eux, non seulement n'ont jamais connu le chômage ou la moindre baisse de revenus, mais ils n'ont pas arrêté de se gaver. La seule différence est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus le cacher. Voilà la vérité, celle que nous avons toujours affirmée. Le groupe PSA n'a jamais été menacé de faillite. Il a simplement mené sa propagande pour justifier la fermeture d'Olmay, qui avait été décidée des années auparavant. C'était un plan cynique destiné à tailler à la hache dans la masse salariale. Parler de redressement spectaculaire est une escroquerie. Qui peut croire à cette fable ? Qu'une multinationale comme PSA a pu passer en quelques dizaines de mois de la quasi-faillite à des bénéfices comptant en milliards. C'est ce genre d'escroquerie et de mensonge qui montre la nécessité vitale pour les travailleurs que nous défendons dans ces élections de contrôler eux-mêmes les comptes des entreprises, de rendre public tous les chiffres, toute la comptabilité et pas seulement ceux trafiqués que les directions publient. Car les travailleurs ne doivent jamais croire les patrons, ils mentent comme ils respirent. Alors, à la jamais, la direction de PSA a supprimé un quart des emplois ces trois dernières années. Les conséquences, nous les subissons dans nos chairs depuis plusieurs semaines avec le lancement d'un nouveau modèle. La production est poussée à son maximum, à la limite du faisable, et la flexibilité des horaires est utilisée en permanence pour attraper les retards dus aux pannes ou autres aléas d'approvisionnement. Cela a pour conséquence des journées à rallonge, des samedis et des jours fériés travaillés, parfois décidés quelques jours avant. Mais ces méthodes brutales pour réaliser coûte que coûte la production ne restent pas sans réaction. C'est ainsi que deux débrayages conséquents ont eu lieu à la Genève en mai. Ces débrayages, en bloquant momentanément la production, ont redonné confiance dans la force collective des travailleurs. Alors bien sûr, il en faudra beaucoup plus pour faire reculer la direction. D'autant que celle-ci n'est pas en reste pour essayer d'étouffer toute contestation. Par l'intermédiaire de quelques cadres, elle explique que si la production ne se fait pas comme elle l'entend, la prochaine voiture, qui est prévue à la Genève en 2018, pourrait être fabriquée en Espagne. Voilà le dialogue social dans cette usine. Les dirigeants peuvent décider du jour au lendemain d'annuler des week-ends de repos bien mérités, et si les travailleurs protestent, ils sont menacés de fermeture de l'usine. Alors quand les politiciens qui se présentent dans cette élection parlent de la démocratie dans l'entreprise, ou du dialogue social nécessaire dans les entreprises, nous savons, nous, que dans une société d'exploitation, vous avez en face de vous un patronat qui n'a comme objectif que de tirer le maximum de votre travail pour ensuite vous faire la peau, il n'y a pas de dialogue social, il ne peut pas y avoir de dialogue social. Et je rajouterai, il n'y a pas de démocratie dans les entreprises, c'est la dictature du patron. Dans les entreprises, entre le capital et le travail, il n'y a que le rapport de force qui compte, c'est eux ou c'est nous. Alors, il y a un point où les patrons nous mènent la guerre systématiquement dans tous les secteurs, dans toutes les entreprises, c'est sur ce qui nous permet de vivre ou de survivre tous les mois, les salaires. L'exemple de PSA l'illustre parfaitement, mais je sais qu'il en va de même dans la plupart des entreprises, il suffit de changer de nom. Depuis maintenant 5 ans à la jamais, les salaires sont bloqués et avec les suppressions ou les rabotages des différentes primes, ce sont plusieurs milliers d'euros qui ont été perdus. Mais ici, comme partout, la direction pleurniche en disant qu'elle n'a pas d'argent pour augmenter les salaires. Les cinq principaux dirigeants de PSA se partagent comme rémunération en 2016 11 millions d'euros, dont Carlos Tavares en tête qui tourne à 4,7 millions d'euros par an, soit 12 879 euros par jour, week-end et jour férié compris. Et si les principaux directeurs de PSA, qui ne sont que des larvins de luxe des actionnaires, sont si bien payés, les actionnaires, la famille Peugeot en tête, vont ramasser bien plus. Les 140 membres de la famille Peugeot vont recevoir 55 millions d'euros au titre des dividendes pour l'année 2016. 55 millions pour 140 nantis, 140 parasites qui ne doivent leur fortune, leur train de vie, qu'à être nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors il est impossible de connaître réellement la fortune personnelle des Peugeot. On sait juste qu'entre le groupe PSA et ses autres propriétés, elle possède près de 4 milliards d'euros d'actifs. Mais cela n'inclut pas la fortune personnelle qui reste secrète. Combien de propriétés, de châteaux, de domaines privés pour ces grands amateurs de chasse? Combien de collections d'objets d'art? Combien d'argent planqué dans les banques suisses et dans les autres paradis fiscaux? Cela, c'est la loi de la société bourgeoise qui interdit de le savoir. Et cela juge cette société. Alors oui, la famille Peugeot va toucher ses 55 millions de dividendes, entre autres parce que chaque mois, elle vole les travailleurs sur leur paye. Et quand on entend parler les politiciens qui défendent les intérêts du patronat, qui reprennent le refrain des salaires trop élevés, mais de qui se moquent-ils? Eux qui se goinfrent avec l'argent de nos impôts pour payer à leur famille des salaires de 5 000 euros par mois se tourner les pouces, ils placent même le rejeton comme assistant parlementaire payé des dizaines de milliers d'euros à ne pas y être. Alors que, lorsqu'un enfant d'ouvrier à PSA a la chance, car cela devient un privilège, de pouvoir se faire un peu d'argent au mois de juillet durant les vacances scolaires, c'est pour travailler à la chaîne, risquer l'accident de travail et gagner péniblement 1100 euros dans le mois. Alors face à tous ces politiciens arrogants, à tous ces bourgeois avec leurs coffres-forts bien remplis qui vivent aux quatre coins du monde, nous leur disons que nous n'acceptons pas ces bas salaires. Oui, il est parfaitement légitime de réclamer, pour commencer à vivre correctement, un salaire de 1800 euros net par mois. Il est légitime de revendiquer d'augmenter tous les salaires et toutes les pensions de 300 euros par mois. Et comme ils ne seront pas d'accord, car ils ne seront jamais d'accord parce que ce serait autant de prix sur leurs bénéfices, eh bien nous leur arracherons par la force, c'est-à-dire par la grève, par les luttes. Le patronat dispose de multiples moyens pour tirer constamment les salaires des ouvriers vers le bas. Un moyen parmi d'autres est l'emploi des travailleurs intérimaires. Ces dernières années, la PSA, après avoir supprimé au moins 20 000 CDI dans ses usines, la direction a eu besoin de pas moins de 7 000 travailleurs intérimaires, dont 700 l'a jamais, pour sortir ses voitures. Car il reste une vérité absolue incontournable, sans les ouvriers, il n'y a pas de production de voitures. Et il est courant de voir sur des chaînes de production l'intégralité des postes de travail tenus par des intérimaires. Ces travailleurs sont pris en otage dans des contrats qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Ils ont les postes les plus durs, des droits au rabais, ils ne touchent pas les primes d'intéressement et surtout, ils ont les payes les plus basses. Pour un intérimaire, le salaire, c'est le minimum. Officiellement, il est à peine supérieur au SMIC, environ 1200 euros net par mois. C'est-à-dire parfois presque 300 à 400 euros de moins qu'un embauché avec un peu d'ancienneté. Alors je précise officiellement 1200 euros, car régulièrement, les agences d'intérim et la direction de PSA trouvent le moyen de gratter encore un peu sur ces salaires comme s'ils n'étaient pas assez bas. Tous les mois, les intérimaires constatent des vols sur leur paye. Une fois, c'est le samedi en heure supplémentaire. Ensuite, c'est le 13e mois qui a été oublié ou une partie de la prime de nuit qui n'a pas été payée. Ce qui se passe à PSA se passe partout, sous toutes sortes de formes, mais toujours dans le cadre d'une politique patronale délibérée qui consiste, comme ils disent, à baisser le coût du travail. Alors, dans cette campagne électorale, nous dénonçons ce que vivent quotidiennement tous les travailleurs, quelle que soit l'entreprise où ils travaillent, quelle que soit la dureté du travail. Oui, nous, les travailleurs, nous sommes à la base du fonctionnement de toute la société. Sans nous, il n'y aurait rien qui pourrait se fabriquer. Rien qui pourrait se construire, rien qui pourrait se déplacer, personne ne pourrait se soigner. C'est pour cette raison que tout ce qui est bon pour les travailleurs est bon pour toute la société. L'interdiction des licenciements, l'embauche massive dans les entreprises pour se répartir le travail entre tous, les augmentations de salaire, toutes ces revendications ne pourront être imposées que par un rapport de force. Oui, aujourd'hui, le patronat nous fait la guerre sociale et il gagne certaines batailles. Mais gagner des batailles ne veut pas dire qu'il a gagné la guerre. Oui, il y a des patrons et des patrons de combat, mais il y a aussi et surtout des millions de travailleurs qui représentent une force sociale gigantesque. Notre force, en tant que travailleur, en tant qu'exploité, réside justement dans notre nombre et dans notre conscience de la place incontournable que nous occupons dans l'économie. Alors nous ne savons pas quand les travailleurs, quand la classe ouvrière inversera le cours des choses, remportera à nouveau des victoires dans la guerre sociale. Mais nous sommes certains que tôt ou tard cela arrivera. Nous en sommes convaincus car nous gardons cette confiance inébranlable dans la capacité des travailleurs à se remettre debout, à relever la tête pour se jeter dans la bataille massivement avec détermination et à remporter la victoire.
Je passe la parole à Valérie Hamon.
Bonsoir à tous. Alors avec Macron au pouvoir, eh bien c'est le grand spectacle politique qui continue. Il aurait, paraît-il, hésité entre le théâtre et la politique, et on peut dire bien qu'il excelle dans les deux. Hein, de partout, on vante sa jeunesse, son renouveau. Alors il est peut-être jeune, et encore, mais ses états de service auprès de la bourgeoisie sont eux bien fournis. Qu'y a-t-il de neuf chez Macron? Après avoir quitté le navire Hollande, juste à temps pour ne pas sombrer avec lui, il a réussi à rafler la mise à Fillon, Le Pen et Valls, comme vous le savez. Et puis on a eu droit depuis au recyclage d'un Bérou, élu depuis 1982, ou d'un Le Drian, élu lui depuis 1977 et ex-VRP des marchands de canons, de Colomb, élu lui aussi depuis 1977, et aussi au recyclage d'ex-sarkozistes, d'ex-chiraciens, d'ex-juppéistes ou d'ex-hollandistes, et j'en passe. Oui, on peut dire que Macron a réussi son opération de marketing. Et en nous vendant le renouvellement, il nous a surtout vendu du vent. Avant lui, on a eu le droit pendant des décennies, alternativement, à la droite et à la gauche. Et bien maintenant, on a la gauche et la droite qui gouvernent ensemble, et toujours, par contre, pour continuer d'imposer la vieille politique, elle, anti-ouvrière. Alors que le Parti Socialiste est moribond, Macron profite de ces élections législatives pour semer la zizanie à droite. Et on peut dire qu'il est heureux ici. En jugé par le nombre de candidats de droite qui se disent désormais Macron compatibles, il a sans doute ses chances. Dans bien des circonscriptions, d'ailleurs, on trouve donc des candidats macronistes officiels, des candidats parti socialiste dit majorité parlementaire, présidentielle, pardon, et des candidats de droite Macron compatibles. Du coup, on se retrouve soit avec deux, voire trois candidats pro-Macron, et sans parler évidemment de la catégorie des Valls devenus des sans-partis fixes. Alors, si Macron rebat les cartes du paysage politicien, tout cela n'est qu'une agitation, bien sûr, et cela ne doit pas tromper les travailleurs. Quel que soit le résultat de ce mercato, tous gouverneront main dans la main avec le patronat. Et c'est le programme de ce patronat et le jeu de la bourgeoisie qu'ils imposeront. Cette comédie vise en fait à faire oublier l'essentiel. Macron, ce qu'il a préparé avec son gouvernement, c'est un véritable état-major de combat contre les travailleurs. Il n'y a qu'à regarder ses ministres, qui ne sont pas tous très connus, mais bon. Édouard Philippe, qui vient de la droite, déclarait récemment « On ne travaille pas assez dans ce pays, on ne travaille pas assez dans la semaine, on ne travaille pas assez dans l'année et on ne travaille pas assez dans sa vie. » Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui aussi qui vient de la droite. Eh bien, pendant les primaires, il ne s'est pas privé de défendre la réduction des indemnités de chômage ou la privatisation de Pôle emploi, les petits boulots à 5 euros de l'heure pour les allocataires des minima sociaux. Quant au ministre du budget de la fonction publique, Darmanin, c'est un ex-porte-parole de Sarkozy. Et pendant les présidentielles, eh bien, il expliquait qu'il fallait supprimer 500 000 fonctionnaires. Et puis, on peut aussi regarder la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle est actuellement membre du conseil d'administration de la SNCF, où d'ailleurs il y a eu plus de 25 000 postes supprimés en 10 ans. C'est l'ex-administratrice d'Orange, l'ex-directrice de Dassault Systèmes, l'ex-DRH de Danone, où elle a d'ailleurs procédé à plus de 900 suppressions d'emplois. Alors c'est sûr qu'en matière de lutte de classe, Madame Pénicaud, elle s'y connaît, mais bien sûr du côté patronal. Alors Macron, il a beau avoir été élu, comme ne cesse de nous le rabâcher la presse, mais il ne nous représente en rien. Il ne représente pas les intérêts des travailleurs, ni les intérêts des chômeurs, et bien sûr, les intérêts qu'il représente, ce sont ceux de la bourgeoisie et du grand patronat. C'est déjà visible dans la première mesure de ce gouvernement. Ils viennent de geler, vous savez, le fameux compte de pénibilité pour la retraite. Les ouvriers peuvent, selon eux, bosser des heures durant dans des conditions pénibles, travailler la nuit, travailler le dimanche, mais que les patrons fassent le compte de cette pénibilité qu'ils imposent d'ailleurs aux travailleurs, que les travailleurs aient la moindre contrepartie, eh bien, c'est trop pénible pour eux. Alors cette mesure, elle illustre vraiment le symbole de la politique de Macron. Derrière, d'ailleurs, tout cela, il y a tout un autre programme. C'est la suppression, vous avez entendu parler, bien sûr, des 120 000 postes dans la fonction publique. C'est l'augmentation de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 1 200 euros. C'est de nouvelles attaques pour les retraites, pour les chômeurs. Et bien sûr, la priorité des priorités, c'est la fameuse réforme du marché du travail. En réalité, c'est la démolition de ce qui reste du Code du travail. Et tous les jours, on a des ministres qui se succèdent pour nous expliquer en quoi cette réforme est cruciale, que l'emploi des chômeurs en dépend, car aujourd'hui, les entreprises sont effrayées par les CDI. Il faut que les salariés soient plus flexibles. Bref, on nous demande d'accepter que nos emplois, nos salaires fluctuent selon les aléas des carnets de commandes, selon la concurrence ou selon le marché. Et tout cela pourquoi ? Parce qu'ils veulent sécuriser leurs profits et ils veulent que leurs dividendes soient en fait garantis. Les patrons avaient déjà une foule de moyens pour contourner les lois sociales existantes et s'asseoir dessus. Ils pourront désormais également faire des contrats de travail taillés sur mesure pour leurs besoins immédiats. Ils pourront licencier quand ils veulent, sans avoir à se justifier de quoi que ce soit. En fait, toutes les demandes du patronat sont exaucées, jusque même au plafonnement des dommages et intérêts versés aux salariés en cas de condamnation de leur patron pour un licenciement illégal, jusqu'à la fusion des comités d'entreprise, des CHSCT et des délégués du personnel. Oui, Gata se dit sur un nuage, il y a vraiment de quoi. Ce que patronat et gouvernement appellent cyniquement à rapprocher le droit des travailleurs des nécessités de l'entreprise consiste en fait à livrer ces travailleurs pieds et poings liés à leur patron. Mais l'enjeu pour Macron, au-delà de ce programme, c'est non seulement de donner au patronat les possibilités légales de faire à peu près ce qu'il veut, mais l'enjeu, c'est aussi de découper, de fragmenter, d'éclater, d'individualiser encore un peu plus les travailleurs. Il s'agit d'ancrer dans la tête de chacun d'entre nous que nous sommes à notre compte, que nous devons gérer chacun de son côté nos problèmes tout seul. Il veut faire de chacun d'entre nous un cas particulier. Pour résumer, c'est chacun ses problèmes et chacun sa situation. Derrière cette attaque, il s'agit pour Macron de démolir la conscience collective. Il s'agit de démolir la conscience de classe. Nous le savons bien, un salarié, seul face à un patron, ne fait pas le poids. Il est voué à subir. Nous savons Nous le savons car la force des exploités, leur force c'est leur nombre, c'est leur rôle dans l'économie, c'est leurs intérêts communs. Leur force, eh bien elle est collective. Et donc, la richesse des travailleurs, c'est justement d'en avoir conscience. Mais la conscience de cette réalité, elle est sans cesse détruite par le fonctionnement même du capitalisme, qui est basé sur la concurrence, qui pousse à la lutte de tous contre tous et au sauf qui peut individuel. La bourgeoisie joue sur cette pression sociale pour diviser et opposer les travailleurs les uns aux autres. Alors construire une conscience collective a toujours été une démarche politique volontariste du mouvement ouvrier. Il a fallu la volonté, l'acharnement militant pour contrebalancer préjugés et pressions sociales. Il a fallu le dévouement de générations de femmes et d'hommes pour rassembler et organiser les travailleurs dans des sociétés de secours mutuels, des associations, dans des syndicats, puis dans des partis politiques. Cela a toujours été un combat et rien n'a jamais été acquis. Et aujourd'hui, où en est-on de ce point de vue ? Alors qu'aux yeux de bien des travailleurs, il ne fait aucun doute que les attaques vont continuer, voire s'aggraver. Y a-t-il même un parti ou un syndicat pour contrebalancer les pressions délétères de la concurrence et pour se battre sur le terrain de cette conscience de classe ? Eh bien non. Et on le mesure encore dans le bras de fer que Macron a engagé. Tous les ministres se répandent sur les ondes pour le même rabâchage qu'on a eu, vous vous souvenez, par rapport à la loi El Khomri. Et au lieu de porter le fer, les confédérations syndicales, eh bien, elles noient le poisson, en laissant croire qu'il y a des marges de manœuvre et qu'il y aurait de quoi négocier. Eh bien, ce que les confédérations syndicales ne veulent pas faire, il faut que les travailleurs conscients et combatifs le fassent. Et il ne s'agit pas seulement d'en appeler aux luttes et aux manifestations. Il faut d'abord et avant tout armer politiquement les travailleurs. Cela signifie se battre pour renouer avec ce qui a toujours fait la force de la classe ouvrière contre le patronat, la conscience de classe, celle d'avoir des intérêts opposés au grand patronat et d'être capable de les défendre collectivement. Surtout que nous venons de voir dans les dernières élections une nouvelle poussée du Front National dans les quartiers et dans les villes ouvrières. Nous rencontrons de plus en plus de femmes et d'hommes des milieux populaires, dans la classe ouvrière, chez les chômeurs, qui sont influencés par les idées du Front National. Alors d'un côté, il manque des militants pour s'opposer aux divisions, aux frustrations, au repli sur soi et au rejet de l'autre. Mais de l'autre côté, il y a un parti pour exploiter cette situation, exciter le chauvinisme et les préjugés racistes. Il y a le Front National, ce parti démagogue, qui détourne la colère, qui l'oriente contre les immigrés, qui sont pourtant nos frères de classe, ou contre des boucs émissaires, comme l'Union Européenne, ou les travailleurs polonais, allemands ou chinois, ou contre les travailleurs détachés. Le fait que des travailleurs aient voté en nombre pour une organisation d'extrême droite, profondément hostile à la classe ouvrière, à ses organisations, à ces militants hostiles au communisme, eh bien voilà l'expression du grave recul de la conscience de classe de nombre de travailleurs. Et demain, nous ne sommes pas à l'abri que des individus ou des groupes fascisants, encouragés par les scores du Front National, s'en prennent physiquement à des travailleurs étrangers, ou qu'ils se battent au travers d'associations de locataires pour réserver des logements aux familles françaises, comme les électeurs de Le Pen. Et alors, à ce moment-là, comment les électeurs de Le Pen réagiraient-ils ? Et puis, la conjonction de la crise économique et de l'instabilité politique est source de danger. Bien des réactions de colère peuvent surgir, et pas forcément du côté des travailleurs. Regardez comment, durant le quinquennat de Hollande, nous avons vu des manifestations de droite contre le mariage homosexuel et des manifestations de policiers qui réclamaient plus de répression. Des gens qui ne défendent pas du tout les intérêts collectifs du monde du travail. Eh bien, rien ne dit que si demain il y a des explosions de colère, elles prennent une voie progressiste, une voie pour améliorer le sort de tous. Alors c'est précisément dans cette période que les travailleurs ont besoin d'avoir conscience de leurs intérêts économiques, bien sûr, mais aussi conscience de leurs intérêts politiques. Si l'on ne veut pas que les explosions sociales soient emmenées vers des impasses ou sur des voies réactionnaires, il faut que les objectifs de combat communs au monde du travail soient présents déjà dans les têtes. Il faut que les travailleurs aient une boussole. Celle-ci ne peut être donnée que par un parti se plaçant clairement sur le terrain des intérêts du monde du travail. La raison essentielle, enfin l'une des raisons pour laquelle nous participons aux élections, eh bien c'est de contribuer à renforcer cette conscience de classe des travailleurs. Bien sûr, dans ces élections législatives, il s'agit de faire entendre le camp des travailleurs. Et on se rend compte au travers de nos activités, on s'en est rendu compte, dans nos discussions récemment, dans les entreprises ou les quartiers populaires, que la campagne des présidentielles que nous avons menée avec Nathalie Arthaud a trouvé un certain écho. Bien sûr, si les 230 000 électeurs qui ont voté pour elle, c'est faible par rapport à l'ensemble de l'électorat, dans le combat social, la présence de 230 000 personnes qui, bien sûr, ont des convictions, mais qui veulent aussi agir, ne pas se laisser faire, peut contribuer à changer le cours des luttes. Et on s'est rendu compte aussi que bien au-delà de ces 230 000 électeurs qui ont voté pour Nathalie, eh bien des femmes et des hommes ont été touchés par ce qu'elle a dit et par notre campagne. En effet, nous sommes les seuls à défendre une politique de lutte de classe et à utiliser ces mots de classe ouvrière, d'exploitation, de bourgeoisie et de communisme. Et quand on en a la possibilité de le faire entendre, comme ça a été le cas au présidentiel, eh bien ces mots, ils touchent. La plupart de ces électeurs, en fait, ils nous sont inconnus et ont justement été touchés par tout ça. Parce que ces idées, elles correspondent à ce que vivent nombre de travailleurs et elles répondent à leurs besoins. Cela a marqué les esprits et nous avons eu bien des retours, bien au-delà de ces électeurs. Alors beaucoup d'entre eux nous ont dit ne pas avoir voté Nathalie, mais ils disent quand même que c'est important que nous soyons là et nous encouragent dans cette voie. Alors, lors de ces élections législatives, c'est aussi l'occasion de continuer et de le dire, de continuer à dire que vous pouvez faire plus que nous encourager, hein, de dire tout ça aux gens qu'on a rencontrés ou qu'on va encore rencontrer et que vous pouvez aussi nous rejoindre. Parce que oui, il faudrait que cette voix qui s'exprime dans les élections, eh bien, s'exprime bien après, au-delà des élections. Il faudrait des relais dans chaque entreprise, dans chaque bar d'immeuble. Il faudrait rassembler plus de militants, plus de sympathisants. Il nous faut construire un véritable parti ouvrier. Une de nos priorités dans ces élections, mais y compris après, c'est de permettre que cette conscience politique qui reste encore comme conscience de classe dans les têtes des travailleurs, eh bien, ne soit pas totalement démolie. Et pour cela, nous sommes convaincus qu'il faut mener tous les combats politiques, bien sûr celui des élections, mais qu'il y a un combat fondamental à mener, c'est celui de construire un parti pour les travailleurs. Ce ne sont pas les frustrations et le sentiment d'injustice qui manquent dans les classes populaires. On le constate chaque jour. Ce qui manque, ce sont des militants pour qu'elles se transforment en conscience politique, pour mettre des mots sur la situation, pour donner les explications, pour démasquer les diversions et les mensonges patronaux. Ce qu'il manque, ce sont des militants pour aider à prendre du recul et offrir des perspectives. Il manque des militants pour organiser, rassembler et aider à réussir à la réussite de ces luttes. Il est vital que les travailleurs, les exploités, se regroupent, qu'ils aient leur propre parti. Et un parti qui se positionne à l'opposé des intérêts du grand patronat. Et loin d'être démunis, comme le racontait Fabrice, face au diktat patronal, les travailleurs ont une force, celle du rôle qu'ils ont dans l'économie, celle de tout fabriquer, de produire toutes les richesses, en fait, celle d'être à la base du fonctionnement de toute la société. Construire un parti qui exprime cette conscience de classe, c'est-à-dire les travailleurs avec leur force collective, au travers de leur grève, leur mobilisation, peuvent aussi défendre leurs intérêts, mais ils peuvent même contester le pouvoir politique. Et même, ils pourraient prendre la direction de la société. Bien sûr, nous savons que cela nécessite que les travailleurs reprennent confiance dans leur force, qu'ils renouent avec la fierté de ce qu'ils sont. Et dans cette société qui mesure la valeur d'un être humain à l'épaisseur de son portefeuille, à la cylindrée de sa voiture ou au standing de sa maison, eh bien en effet, tout est fait pour rabaisser, pour écraser les travailleurs. Tout est fait pour qu'ils se résignent, pour qu'ils se laissent faire. Mais en fait, qui produit ces fameuses cylindrées? Qui remplit les portefeuilles des grandes fortunes? Qui construit leur palace? Alors oui, face à cette classe capitaliste minoritaire et anachronique, les travailleurs, eh bien, ils doivent marcher la tête haute. Ils doivent affirmer leur fierté de tout produire, de soigner, d'éduquer, de permettre à tous de circuler, de permettre à tous de se nourrir. Il faut affirmer que nous sommes mille fois plus utiles que tous ces parasites. Et oui, il faut un parti qui popularise l'idée toute simple que les travailleurs font tout dans cette société et doivent collectivement en devenir les maîtres. Alors ce ne sont pas les idées nationalistes, protectionnistes, largement véhiculées par le Parti communiste français, mais aussi par Jean-Luc Mélenchon, qui aideront les travailleurs à renouer avec la conscience de classe et l'internationalisme. Bien au contraire. Alors que la bourgeoisie a toujours joué du nationalisme et du patriotisme pour embrigader les travailleurs derrière ses intérêts, le mouvement ouvrier révolutionnaire s'est construit sur l'appel de Karl Marx. « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Que reste-t-il aujourd'hui de ce capital politique? Regardez Jean-Luc Mélenchon, qui a capté bien des voix aux dernières élections sur les bases du Parti communiste. Sur des bases d'ailleurs encore plus souverainistes, encore plus chauvines. Il est à l'opposé de ce que nous voulons construire et des perspectives qui seraient nécessaires pour les travailleurs. Et pour montrer que son mouvement n'avait rien à voir avec les idées communistes et internationalistes, il est même allé jusqu'à interdire les drapeaux rouges et l'international dans ses rassemblements, n'autorisant que les drapeaux bleu, blanc, rouge et la Marseillaise. Il a mis au cœur de son programme la lutte contre l'Union européenne et ses traités. Il a prôné le recentrage de l'économie sur le local, avec une bonne dose de protectionnisme. Pour différencier son protectionnisme de celui de Le Pen, il l'a nommé « solidaire ». Mais il véhicule la même idée fondamentale. Le danger réside dans la concurrence d'autres travailleurs et dans l'ouverture des frontières. Pendant que les licenciements, les fermetures d'entreprises et le chômage sont mis sur le dos de l'Union européenne et ses traités, eh bien les requins capitalistes peuvent continuer d'agir en toute impunité. Le patronat peut bloquer les salaires, aggraver l'exploitation au travers des hausses de cadence, de réductions de pauses, des réorganisations ou au recours aux heures supplémentaires. Regardez la fortune de Beignet, bien connu dans le coin, propriétaire de Lactalis. Un patron bien français a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années sa fortune pour atteindre 10,5 milliards d'euros. Donc c'est le 8e rang des fortunes du pays, et si on additionne les frangins et les frangines, on arrive même à la fortune de la famille Beignet au 4e rang du pays. Eh bien, comment, en quelques années, ont-ils pu ainsi augmenter leur fortune? Bien sûr, on l'a vu aussi parce qu'ils ont manifesté, eh bien, en rançonnant les producteurs de lait. Eh bien, là encore, il y a eu des politiciens pour attaquer l'Union européenne et l'accuser d'être responsable de cette situation, et non pas la famille Beignet. Alors que ces idées soient défendues par Le Pen, par les souverainistes de droite, les socialistes ou les socialistes du genre Montebourg, ou par Mélenchon ou le PCF, eh bien en fait elles font le jeu du patronat. Elle brouille les consciences des travailleurs et elles affaiblissent le monde du travail. Eh bien, nous, on est dans le camp des travailleurs, et c'est tout l'inverse qu'on veut dire. Être dans le camp des travailleurs, ce n'est pas opposer les travailleurs des différentes nations les uns aux autres. C'est reconnaître et dénoncer la guerre de classe que la bourgeoisie nous mène aux exploités, et ce, quel que soit leur pays. Être dans le camp des travailleurs, c'est affirmer que les chômeurs français, comme les chômeurs étrangers, eh bien, ce sont tous des chômeurs du capitalisme. Être dans le camp des travailleurs, c'est être internationaliste. Et bien sûr, c'est militer pour diffuser auprès des exploités la conscience d'appartenir à la même classe sociale. Être dans le camp des travailleurs, c'est avoir pour perspective de combattre l'exploitation et de renverser le capitalisme. Être dans le camp des travailleurs, c'est être communiste. Nous sommes communistes parce que nous aspirons à une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et qui produisent. Et vous le savez, nous avons présenté des candidats, comme l'a dit Florence, aux législatives dans toutes les circonscriptions. Eh bien, c'était aussi pour permettre, à tous ceux qui ont voté pour Nathalie Arthaud de poursuivre leurs gestes, mais aussi pour permettre à tous ceux qui se reconnaissent dans ces perspectives de s'exprimer collectivement, et ce, de le faire ensemble, à l'échelle du pays, pour montrer que nous sommes un courant, et que nous ne sommes pas isolés, que nous ne sommes pas seuls à penser cela. Et chacun, au lendemain du premier tour, pourra mesurer dans son village, dans son quartier, dans sa ville, eh bien qu'il n'est pas seul, et qu'il s'inscrit dans un courant de plusieurs centaines de milliers de femmes et d'hommes. Bien sûr, ce courant est minoritaire, mais c'est un courant qui existe à l'échelle de tout le pays. Et puis c'est un courant de travailleurs qui ont des convictions et qui, eux aussi, ont envie d'agir, qui n'ont pas envie de se laisser faire. Eh bien, même peu nombreux, ce sont ceux qui ont envie d'agir qui peuvent jouer un rôle demain et faire que la situation débouche sur des luttes qui iront dans le bon sens. Alors bien sûr, c'est pour cela que je vous invite évidemment. Enfin, plus que je vous invite, je vous appelle à voter pour les candidats de lutte ouvrière dimanche prochain. Alors, on sait que pour nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, les jeunes, les classes populaires, qui sommes victimes de la domination du capital, l'avenir ne se jouera pas dans les urnes. Bien sûr, notre avenir, il dépend de nos luttes contre la classe capitaliste, de notre organisation et de notre conscience collective. Et construire une opposition qui représente nos intérêts de classe est d'autant plus important que le Front National, comme je l'ai dit, a gagné en influence et détourne les travailleurs de leur véritable combat. En occultant les responsabilités du grand patronat, le Front National, comme Macron, eh bien, il défend les capitalistes. Alors, contre les démagogues, quelle que soit leur origine, et face aux attaques du patronat, nous pensons que les travailleurs doivent s'emparer d'objectifs qui puissent les protéger contre la crise. Et comme l'a bien expliqué Fabrice, nous popularisons ces objectifs résumés par trois mesures essentielles. Vous les connaissez, c'est un emploi pour tous, que chacun puisse vivre de son travail, de sa retraite, de son allocation, mais c'est aussi la levée du secret des affaires pour permettre aux travailleurs et à la population de divulguer tout ce dont ils sont témoins du fonctionnement de la société et de l'entreprise, jusqu'à la circulation de l'argent, jusque par exemple à la signature de contrats avec les sous-traitants. Alors tout ce qu'on a dit lors de cette campagne, cette voix, il faut qu'elle s'exprime au-delà de ces périodes électorales. Il faut qu'elle continue de s'exprimer au quotidien, dans les entreprises, là où on travaille, dans nos quartiers. Et pour cela, il faut utiliser toutes les possibilités que nous avons pour montrer qu'il y a un courant qui reste sur ces positions-là, et un courant qui a l'ambition de reconstruire un parti ouvrier attaché aux valeurs et au combat des travailleurs. Alors, je vous encourage à discuter autour de vous, et j'encourage tous ceux qui se reconnaissent que vous connaissez autour de vous qui se reconnaissent dans ces idées, hein, à nous aider, à nous rejoindre, évidemment à nous aider à construire le parti qui manque aux exploités. Et ce n'est pas seulement l'idée de défendre les intérêts dans le cadre du capitalisme, mais c'est aussi pour œuvrer pour le renversement de la société d'exploitation.